Petit extrait du livre, L'exploration du cerveau, par les oscillations des phosphènes doubles. Dr Francis Lefebure. Édition Phosphénisme. La cervoscopie. Nouvelle méthode d'exploration du cerveau basée principalement sur l'alternance des phosphènes doubles. Les phosphènes sont les taches lumineuses, qui persistent lorsque l'on demeure dans l'obscurité, après avoir regardé une vive lumière. Si nous regardons deux lampes séparées, par une cloison nous aurons un phosphène dans chaque œil. Le docteur Lefebure a découvert que si l'on éclaire alternativement à droite et à gauche, pour le rythme de 2 secondes par côté, ensuite, les deux phosphènes, au lieu d'être perçus en même temps, apparaîtront alternativement à droite et à gauche, non pas au rythme de l'éclairage, mais sur un rythme propre au sujet, environ 30 fois après chaque éclairage. Ce rythme est d'autant plus régulier, que le sujet se trouve dans des conditions favorables à son bon fonctionnement cérébral. Très sensible, il constitue une sorte de sonde, donnant de multiples renseignements, d'ordre psychologique et d'ordre médical. Le docteur Lefebure a pu étudier ainsi l'effet de certains médicaments. Mais la plus grande originalité de sa recherche est l'étude des techniques mystiques et initiatiques tant orientales qu'occidentales, grâce à cette oscillation. Certains autres rythmes des phosphènes, mis également en évidence par le docteur Lefebure, présentent des analogies évidentes avec des rythmes que les contemplatifs découvrent parfois dans leur conscience, lorsqu'ils cherchent à s'unir à Dieu. D'autres rythmes des phosphènes ont été mis en évidence, en particulier, l'oscillation en zigzag. Une expérience prouve que lors de la dernière phase du phosphène, il ne se passe plus rien sur la rétine, mais seulement une oscillation très lente d'un hémisphère cérébral à l'autre. Ces recherches n'ont pas empêché le docteur Lefebure de rester essentiellement pratique. Les principes qu'il a découverts l'ont, par exemple, conduit à créer le synchroscope, appareil dont l'action sur la mémoire est incontestable, et qui présente de ce fait un grand intérêt pour la préparation des examens. Les principaux faits découverts par le docteur Lefebure ont été vérifiés au CNRS, au laboratoire central des PTT, et par monsieur le professeur Chauchard. Introduction. L'effet subu. À l'occasion du passage en France, en novembre 1959, de l'Indonésien Pak Subu, nous avons étudié les mouvements de tête qu'il pratique et que nous savions appartenir à une vieille tradition javanaise. Ces exercices ressemblent fort aux techniques initiatiques zoroastriennes, dont nous avions eu connaissance, par notre maître Artem Galip. Elles en diffèrent pourtant par quelques nuances. Nul doute que des mouvements de tête pratiqués assidûment agissent sur la masse cérébrale et, par suite, sur l'état de conscience du sujet. Mais de toutes les variantes traditionnelles, lesquelles sont favorables? Et si deux modalités permettent d'obtenir de bons résultats, quelle différence y a-t-il entre ces résultats? Comment avoir une connaissance relativement objective de l'action de chacune puisque les électroencéphalogrammes exigent l'immobilité complète? Nous avions déjà pris des électroencéphalogrammes, avant et après des balancements, et nous connaissions leur effet réparateur sur le cerveau, effet comparable à celui du sommeil. Voir homologie, aux éditions Phosphénisme. Mais comment savoir, avec plus de précision, que par la seule observation de nos pensées, ce qui se passe pendant les balancements? Telle était, à cette époque, les questions qu'une fois de plus nous nous posions. Pour les résoudre, nous avons eu alors l'idée d'utiliser les phosphènes, lumière subjective, sans excitation concomitante de l'œil, par la lumière physique. Il existe des phosphènes par compression, par trouble circulatoire rétinien, le chaos visuel, sensation résiduelle lumineuse persistant dans l'obscurité, en fait partie. Ce que nous étudions sont aussi appelées images consécutives, images de persistance, post-image. Fondant sur une science, la cervoscopie, nous avons préféré employer le terme plus court et plus esthétique de phosphène, bien que d'un sens plus général. Nous avions déjà étudié leur réactivation par l'attention et aussi certains de leurs liens avec l'imagination. Nous avons pensé à rechercher l'action que peuvent avoir sur eux les mouvements de la tête, voir expérience initiatique, tome 1. Chapitre 3 jusqu'à association, avec la convergence oculaire. Nous avons découvert aussitôt un fait absolument stupéfiant, et certainement imprévisible. À notre connaissance, il n'a jamais encore été signalé par aucun auteur, bien qu'un enfant eût pu le découvrir en s'amusant. D'une distance de 3 mètres, regardons pendant une minute une lampe ordinaire, puis éteignons-la, et restons dans l'obscurité. Attendons la fin de la phase de latence et du stade confus. Dès que le phosphène est formé, balançons la tête à une vitesse moyenne. Nous voyons le phosphène se balancer à la même vitesse que la tête. Recommençons l'expérience, mais cette fois, balançons la tête très rapidement. Le phosphène semble rester fixe, sur l'axe vertical médian du corps. Balançons maintenant la tête très lentement. Le phosphène paraît se balancer un peu, mais moins que le corps. Ainsi, il existe un rythme, et un seul, qui favorise les associations de sensations ou tout au moins, les permet, les autres rythmes, brisant, ou diminuant ces associations. Cette opposition inattendue entre les déplacements des phosphènes, selon que le rythme des mouvements de tête est moyen, ou rapide, nous l'avons appelé effet subu, en souvenir des circonstances de sa découverte. L'effet subu est la dissociation, entre les mouvements de la tête, et les mouvements du phosphène, lorsque les mouvements de la tête sont rapides. Il a été découvert en cherchant un moyen de comparer la façon, dont le mage indonésien, Pak Subu, pratique les balancements de tête, et c'est que nous avons enseigné notre premier maître Artem Galip. Ce seul fait possède déjà une portée neurologique, et pédagogique considérable. Il ouvre la porte à une nouvelle branche de la connaissance humaine, la neuropédagogie. Nous ne nous étendrons pas ici sur l'analyse des rapports, entre les mouvements de la tête, et ceux de la pensée, en tenant compte de l'expérience des phosphènes. Nous relèverons seulement un autre fait très curieux. Lors d'un mouvement de circumduction de la tête, le phosphène paraît décrire un petit cercle, se déplacer, non sur la surface que décrit le sommet de la tête, surface proche du plan horizontal, mais dans un plan vertical parallèle au plan frontal, mais un peu antérieur. De même, au cours du balancement antéro-postérieur de la tête, le phosphène paraît se mouvoir, non d'avant en arrière, mais de haut en bas, sur un plan vertical parafrontal. De ces faits, également, il est difficile de donner une explication précise, d'autant plus que, comme nous le verrons dans ce traité, il arrive que les phosphènes ne paraissent pas à la même profondeur. Nous avons éprouvé, en observant ces faits, la même impression qu'à la découverte d'une entrée, de caverne, dissimulée par un feuillage. Les rapports entre les rythmes des mouvements de la tête et le fonctionnement du cerveau constituaient la première caverne à explorer. Mais certainement, le fond de cette caverne devait receler d'autres passages étroits, vers de nouvelles cavités, véritable palais des miracles, ou découvrir des phénomènes imprévisibles. Et tout d'abord, puisque l'observation d'un seul phosphène apportait des enseignements si curieux, l'étude de deux phosphènes simultanés ne serait-elle pas encore plus profitable? L'expérience confirma notre intuition, et c'est ainsi que nous fûmes amenés, en janvier 1960, à découvrir tout d'abord les pulsations entre les phosphènes doubles, grâce à une expérience réalisée avec si peu de soin, qu'elle créait les circonstances de déséquilibre, interhémisphérique, et de difficulté d'adaptation, que nous avons compris par la suite être nécessaires, pour que se produise ce mode d'oscillation entre deux phosphènes. Puis, en voulant recréer les pulsations par résonance avec un éclairage alternatif, ce à quoi nous ne sommes jamais parvenus, nous avons découvert le phénomène d'alternance des phosphènes doubles, qui s'est montré d'une richesse d'application pratique inouïe. L'alternance des phosphènes doubles, ainsi que les principales règles de cette oscillation, a été vérifiée au Centre National de la Recherche Scientifique, sous la direction du Dr Jacquet, à l'Institut National des Sports, et utilisée pour la création d'une gymnastique à des effets cérébraux fructueux, gymnastique cervoscopique, au Dynamo Institute, pendant l'année 1961. Dans ce petit traité de cervoscopie, nous cherchons à attirer l'attention des pédagogues, des médecins, de tout ce qui intéresse la physiologie du cerveau, sur les phénomènes facilement observables, et d'utilité pratique, que révèle l'étude des phosphènes, et principalement sur ces tendances des hémisphères cérébraux au travail alternatif, et symétrique dans le temps et dans l'espace, tendance qui peut être accentuée de diverses façons, et dont il résulte toujours une amélioration du travail cérébral. L'étude de ces phénomènes nous a déjà conduit à une application d'une immense portée pédagogique. L'audition alternative, qui fortifie l'attention et la compréhension, par certains rythmes d'audition alternativement à droite et à gauche. Tout porte à croire que nous sommes de plus en plus sur la voie qui conduira à l'éveil de facultés cérébrales supérieures grâce à des rythmes sensoriels appropriés. L'effet Subu étant défini par le phénomène découvert en 1959, faut-il s'étonner de ce que le phosphène se balance avec la tête à un rythme de vitesse moyenne, ou est-il au contraire bizarre qu'il paraisse rester fixe aux vitesses très rapides et très lentes? La réponse à cette question nous paraît assez simple. En effet, si nous regardons un arbre, et que nous penchions la tête, cet arbre ne paraît pas s'incliner avec la tête. Si ensuite nous pensons à cet arbre, quelle que soit la vitesse, et la variété de nos oscillations de tête, elle n'influe pas sur la notion que nous avons de la position de cet arbre imaginaire. Dans notre esprit, il reste vertical à l'endroit où nous nous le sommes tout d'abord représenté. Le fait étonnant, étrange, n'est donc pas que le phosphène paraisse rester fixe sur l'axe du corps au rythme extrême, mais qu'il se déplace avec la tête au rythme moyen. Les rythmes aux alentours de 4 secondes possèdent donc un pouvoir de synchronisation qui associe les sensations visuelles subjectives aux sensations synesthésiques. Le pouvoir de synchronisation de ce rythme est-il limité aux seules sensations visuelles et synesthésiques? Il est bien possible, au contraire, que le rythme de 4 secondes soit un rythme fondamental de la conscience susceptible de faire vibrer les régions les plus subtiles du cerveau. Observons, par exemple, que ce rythme est le plus facile et le plus agréable pour la pratique de ce que le yoga appelle la répétition des mantras, ou groupe de lettres d'un très petit nombre de syllabes, sans signification conventionnelle dans aucune langue humaine. Cette répétition agit sur la conscience, par la seule vertu de la résonance entre certains sons, et des sentiments correspondant analogiquement, ou des affinités, avec des facultés cérébrales supérieures. Leur répétition monotone conduit à des états d'extase, traduisant dans la neuropsychologie moderne, des crises de synchronisation dans les régions supérieures du cerveau, qui engendrent des éclairs de surconscience d'abord, plus tard un état surnaturel permanent du fonctionnement cérébral comparable, dans un autre domaine, à celui des calculateurs prodiges. C'est là un phénomène, qui est à la physiologie cérébrale ce que le laser est à l'optique. Par la synchronisation des ondes lumineuses, ce rubis confère à la lumière des pouvoirs merveilleux. Il est ainsi possible que la découverte de l'effet Subu contribue à mettre en évidence la valeur fondamentale du rythme de 4 secondes pour tout exercice de concentration mentale, et à l'utiliser systématiquement pour élever l'homme à des états de conscience supranormaux. Ce rythme paraît être celui que le père Jousse a observé chez les Israélites pendant la prière, et qu'il avait déjà rapproché de la structure symétrique des paraboles. Il nous faut noter qu'au contraire, d'après le témoignage de M. Léniel Lavastine, voir page 102, dans tout le sud de l'Inde, de Caen, et jusque dans les Vindhya Mountains, les balancements latéraux de la tête sont pratiqués très rapidement, et sur un rythme saccadé, avec un arrêt court au moment où l'oreille touche l'épaule. La cervoscopie nous prouvera que chacun de ces rythmes possède ses avantages et que leurs effets sur le cerveau sont différents. Fin des extraits. Retrouvez l'intégralité du livre audio sur le site phosphénisme.com.